Le dernier dimanche d'octobre, nous avons une petite pensée pour le 31 octobre 1517, où Martin Luther aurait, selon ce qu'on dit, affiché 95 thèses sur la porte de son église paroissiale en vue de réformer, de renouveler l'église chrétienne. Alors cette commémoration n'a pas pour but de nous rappeler la pensée de Luther ou celle de Calvin, mais plutôt cette commémoration est un rendez-vous pour marquer dans notre agenda cette mention, penser à se réformer un peu aujourd'hui. Alors oui, il y a déjà plein de bonnes choses dans notre théologie, dans notre façon de vivre, d'espérer, de pratiquer le culte, tout cela c'est parfait, mais il y a une marge de progression, bien entendu. Alors je vous propose de suivre une parabole de Jésus qui a pour objectif, bien sûr, comme toutes les paraboles de Jésus, de provoquer un changement de logique dans notre façon de voir, plus même que de nous apprendre quelque chose, de nous ouvrir à cette nouveauté dérangeante, mais jamais menaçante, qu'est Dieu. Alors cette parabole, elle est au chapitre 22 de l'Évangile selon Matthieu, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. C'est la parabole des invités aux noces. Jésus leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. » Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont sacrifiées. Tout est prêt, venez aux noces. » Mais négligeant l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce, les autres, ceux qui restent, se saisirent des serviteurs, ils les injurièrent et les tuèrent. Le roi fut en colère, il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes et les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au croisement des routes et invitez aux noces ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, à la salle des noces, et elle fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans un habit de noces ?» Mais cet homme resta bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. » Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Alors on a d'autres versions de cet épisode, de cette parabole de Jésus. Nous avons celle de Luc, qui est bien connue, avec le contraint-les d'entrée. Mais je ne parlerai pas de ça, j'ai déjà parlé une autre fois. Je vais vous lire plutôt une autre version qui est dans l'Évangile selon Thomas, au Logion, à la parole 64. Peut-être que c'est une version primitive, assez ancienne, plus ancienne que celle de l'Évangile selon Matthieu, de cette parabole de Jésus. On savait en effet qu'il y avait des gens qui suivaient les rabbis juifs de l'époque, il y en avait plusieurs, il n'y avait pas que Jésus, et qu'ils prenaient souvent des notes, en notes, les paroles de leur maître, qui sur une omoplate de chameau, paraît-il, qui sur un bout de parchemin, qui sur peut-être un tesson de poterie. Mais voilà donc ce Logion 64 retrouvé dans les sables. Jésus a dit, un homme avait des invités lorsqu'il eut préparé le dîner, il envoya son serviteur appeler les invités. Il alla chez le premier et lui dit, mon maître t'invite. L'invité répondit, des marchands me doivent de l'argent, ils viennent ce soir chez moi et j'irai leur donner mes ordres, je m'excuse pour le dîner. Il alla ensuite chez un autre et lui dit, « Mon maître t'a invité. » L'invité répondit, « J'ai acheté une maison et on me demande un jour, je ne serai pas disponible. » Il alla chez un autre et lui dit, « Mon maître t'invite. » L'invité répondit, « Mon ami va se marier et c'est moi qui vais faire un dîner, alors je ne pourrai pas venir, je m'excuse pour l'invitation. » Il alla chez un autre et il lui dit, « Mon maître t'invite. » L'invité répondit, « J'ai acheté un domaine, j'y vais percevoir le fermage, je ne pourrai pas venir, je m'excuse. » Le serviteur alla enfin dire à son maître, « Eh bien, ceux que tu as invités au dîner se sont excusés. » Le maître dit à son serviteur, « Va au dehors, sur les chemins, et ceux que tu trouveras, amène-les pour qu'ils dînent. Les acheteurs et les marchands ne seront pas dans les lieux de mon Père. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors je vous propose de chanter au cantique 229 du Petit Recueil. C'est un rempart que notre Dieu, donc un cantique de Luther, écrit, composé, paroles et textes par le réformateur théologien musicien qu'est Martin Luther. Les strophes 1, 2 et 4. Pour demander à Dieu d'éclairer notre méditation de ces témoignages anciens, je vous propose de vous ouvrir par la prière de saint Augustin à l'Esprit de Dieu. Désormais, mon Dieu, c'est toi que j'aime, toi auquel je m'attache, toi que je suis prêt à servir. Parce que toi seul as droit d'être mon Seigneur, je désire être ton enfant. Parle, je t'en prie, et dis ce que tu voudras, je sais que ce sera bon. Mais guéris et ouvre mon intelligence pour que je puisse entendre tes paroles. Guéris et ouvre mes yeux pour que je puisse voir ta volonté. Éloigne de moi l'égarement de l'esprit afin que je puisse te reconnaître. Enseigne-moi les moyens que je dois prendre pour aller à toi, Père, et j'espère alors pouvoir accomplir ce que tu me diras. Je ne demande qu'une chose, mon Dieu, c'est que ton puissant amour me convertisse entièrement à toi afin que rien ne s'oppose en moi à tes efforts. Fais que je sois pur, magnanime, juste et prudent, que j'aie en perfection l'amour et de toi et de tes enfants que tu me commandes d'aimer. Dans un sens, cette parabole est vraiment réjouissante car elle nous dit que tout est prêt pour que notre vie soit comme une fête. Nous sommes invités à un festin royal, que nous soyons bons ou mauvais, que nous soyons un notable ou un mendiant sur le bord de la route. Mais dans un autre sens, cette parabole est vraiment inquiétante car l'invitation est généreuse, mais la patience de ce roi a des limites qui sont assez vite atteintes. Et la sanction est terrible. Et la fin du film se termine sur cette conclusion bien peu rassurante. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors comment lire dans cette parabole que nous rapporte Matthieu la bonne nouvelle de l'amour bienfaisant de Dieu ? Alors la première lecture possible, première interprétation de ce passage de l'Évangile, c'est d'en faire une lecture historique. Le roi de la parabole représente Dieu, les premiers invités sont le peuple juif, les serviteurs du roi sont les prophètes qui ne sont pas écoutés, c'est bien connu, puis le Christ et les apôtres qui sont non seulement pas tellement écoutés, mais en plus qui sont tués. Alors la seconde vague d'invitations auprès des mendiants qui sont un peu partout serait l'ouverture de la nouvelle alliance aux païens. Alors une hypothèse vient facilement à l'esprit, c'est que ces deux passages menaçants qui sont dans la version uniquement, dans la version selon Matthieu, ont été ajoutés à la parabole originelle de Jésus après la destruction du temple de Jérusalem par l'armée romaine, et donc Jérusalem et son temple par les Romains en 70, et puis dans un contexte où effectivement les Juifs de la synagogue qui n'ont pas reconnu Jésus comme Christ chassent les Juifs qui étaient chrétiens. Alors voilà, le texte nous dit, ceux qui restèrent et se saisirent des serviteurs, les injurièrent et les tuèrent. Le roi fut en colère, il envoya les soldats et fit tuer ces meurtriers et incendia leur ville. Cela serait un peu un écho à ce désastre de Jérusalem. Alors ce passage, il n'est pas dans la version de Luc, il n'est pas dans la version probablement plus ancienne de Thomas. Et l'évangile selon Matthieu aurait également ajouté en écho à ce souvenir du problème de Jérusalem. Il aurait également ajouté l'épisode de l'homme qui n'a pas revêtu un vêtement de noces, comme une leçon pour les chrétiens qui participent joyeusement à la vie de l'Église, mais sans vraiment changer ni leur cœur, ni leur vie, ni leur façon d'être. La parabole menacerait d'abord donc les Juifs de la synagogue, et puis ensuite elle menacerait ces piètres chrétiens de punition comparable à ce qui est arrivé à Jérusalem et au Temple, qui est relu comme une punition 40 ans après la crucifixion du Christ et le manque de foi de ceux qui n'ont pas changé. À bon entendeur, salut. Alors cette lecture est intéressante et peut-être en partie exacte, mais il y a quand même un problème, et pas qu'un en fait. D'abord de relire la destruction de Jérusalem comme étant la punition de Dieu. Le même évangile selon Matthieu affirme que Dieu fait du bien à ceux qui le persécutent, et qui le maudissent, et qui le maltraitent. Et puis on voit Jésus prier pour ceux qui le rejettent, non seulement pour le temple de Jérusalem, mais aussi pour ceux qui sont en train, qui viennent de le clouer sur la croix. Donc non, Dieu ne tue personne et il n'envoie pas une légion romaine pour massacrer ceux qui injurient son fils. Il y a aussi un risque avec cette lecture historique, c'est que si nous identifions les serviteurs aux prophètes d'Israël, les premiers invités aux juifs réactionnaires de l'époque de Jésus, les soldats de Dieu aux légions romaines, si nous nous limitons à cette interprétation très historique, alors nous sommes comme ces personnes qui répondent à l'appel du Christ, ces paroles ne me concernent pas, elles parlent pour d'autres que moi. Et puis il y a aussi le risque dans cette lecture historique d'en déduire que l'ouverture de l'alliance de Dieu aux païens n'est qu'un pis-aller finalement face au refus des juifs, du peuple de Dieu, de reconnaître Jésus comme étant son Messie, son Christ. Alors le problème, c'est que d'abord, ce n'est pas si vrai que ça, car il y a une quantité de juifs qui ont reconnu en Jésus le Messie, le Christ attendu, à commencer par Marie, la mère de Jésus, les 12 apôtres, et puis Paul, et puis tant d'autres, des milliers d'autres, à Jérusalem et puis dans le bassin méditerranéen. Et puis aussi, il ne faudrait pas que cette lecture nous conduise à dire que l'ancienne alliance est périmée, comme un vieux yaourt qu'il vaut mieux jeter pour ne pas tomber malade, et donc que les juifs qui refusent de reconnaître en Jésus le Messie sont finalement nécessairement infidèles à Dieu. Alors Jésus n'a jamais dit ça lui-même, et en tout cas ce n'est pas à nous d'en juger, à moins que nous nous prenions nous-mêmes pour Dieu. Nous avons simplement à lancer l'invitation que Dieu nous envoie apporter à ceux vers qui il nous envoie. Mais finalement, à ces réserves près, je suis d'accord avec l'appel qui est adressé alors aux chrétiens dans cette lecture, de vivre aujourd'hui du royaume de Dieu dans cette joie, mais aussi en répondant, oui, un vrai oui à la grâce de Dieu, un oui qui nous permette de nourrir notre être à tout ce que Dieu nous donne en Christ, mais aussi que notre façon d'être dans le monde soit vraiment, visiblement, concrètement transformée à l'image du Christ, pas simplement un oui de la foi, mais d'une foi en acte. Alors je vous propose une deuxième lecture possible qui consiste à faire plutôt à s'intéresser à l'appel de Dieu, à la grâce, et puis à la réponse de l'homme à la foi dans cette parabole. Alors il y a une petite difficulté, c'est que la grâce de Dieu ne semble pas être très équitablement répartie dans ce texte. Contrairement à ce qu'on lit parfois, Dieu n'invite pas tout le monde dans cette parabole. Dans la logique d'une invitation au mariage de son fils, Dieu invite d'abord ses proches. Or, comme le dit Jésus, il est bien difficile d'être prophète dans sa famille et dans son pays, et c'est un risque pour nous. Plus quelqu'un est engagé dans la foi, dans l'Église, dans la théologie, et puis dans une vraie vie de qualité généreuse, plus nous sommes proches du Christ et plus c'est difficile d'entendre la nouveauté de ce que Dieu nous adresse. Et puis nous croyons connaître Dieu tellement par cœur, nous sommes dans une telle confiance en lui, que assez facilement nous lui répondons « Bon, écoute, attends un peu, là je suis sur un truc important » et donc de manquer une occasion essentielle et de se réformer et de servir. Mais le pire finalement, parmi les invités du premier cercle, sont ceux que le texte appelle « ceux qui restent » et qui vont injurier et tuer. Dans la Bible, normalement, le terme « le reste d'Israël » est quelque chose de très positif. Il exprime ceux qui tiennent bon, les purs, les incorruptibles, à partir duquel le Dieu pourra rebâtir finalement une vraie relation à son peuple. Alors tout dépend de quoi on est ainsi fondamentalement très attaché. Si c'est à une vraie relation vivante à Dieu, ben c'est génial. Mais le risque est d'être très attaché aux moyens et non à la personne même de Dieu, au moyen plus qu'au but, et d'être follement attaché à sa petite chapelle, à son interprétation de la Bible, à sa façon de pratiquer la religion, à sa foi, au point de tuer la dynamique même de Dieu, de l'Esprit de Dieu en nous. Alors ces invités, ils n'évoquent alors pas seulement les méchants juifs qui ont tué Jésus, ni les... mais ces invités, ils parlent de notre part d'intégrisme à nous, finalement, qui est source d'injures et de mort pour la présence de Dieu en nous, dans le monde. Le roi invite alors tous ceux qui sont au carrefour des routes. Donc le seul critère, parce que là encore tout le monde n'est pas invité, le seul critère c'est d'être sur la route, là où elle s'ouvre sur les grands espaces. Mieux vaut alors bien sûr être bon que méchant, tout le monde est d'accord, mais là n'est finalement pas un critère pour être sur la liste des invités de Dieu. Le critère c'est d'être en recherche finalement. Ceux-là, ceux qui sont en recherche, qui sont sortis finalement de chez eux, peut-être même de la ville, vers les grands espaces, eh bien, ils sont disponibles à la nouveauté de Dieu. Et effectivement, en répondant à l'invitation, en goûtant à ce « tout est prêt » que Dieu nous offre, la plupart de ceux qui entrent alors dans cette démarche, nous dit la parabole, vivent effectivement les noces et peuvent se nourrir et sont revêtus vraiment d'une transformation. La foi est donc d'abord et avant tout une recherche ouverte et une disponibilité à la grâce, à l'appel de Dieu. Mais ce n'est pas tout, car un des participants qui pourtant était bien en recherche, qui a pourtant bien répondu oui finalement à la grâce de Dieu, va finir quand même par être disqualifié. Le roi constate qu'il n'a pas mis l'habit de noces, habit de fête qui était offert à chaque invité, à son arrivée des noces. Sinon, tous les clodos qui avaient été ramassés sur le bord des routes, ils n'auraient pas eu non plus l'habit de fête. Alors peut-être que l'on peut rapprocher cette attitude de l'homme qui est là, mais qui n'a pas revêtu son habit de noces, à cet enseignement de Jésus, ce n'est pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entrent dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et donc la foi n'est pas juste une question de dire oui à Dieu, ni de se réjouir de son amour et d'en profiter, mais d'en vivre réellement. Alors oui, Dieu recruterait dans cette lecture les méchants, les bons et les justes, mais encore aurait-on intérêt à changer, à s'améliorer rapidement avant d'être jeté dehors? Eh bien, je ne crois pas que ce soit ce qui soit marqué dans cette parabole. Alors bien sûr, il est appréciable que notre foi se manifeste par de vrais bons fruits, finalement, et qu'on change, on évolue dans le bon sens. Et presque toujours, nous dit le texte, puisque tous sauf un, qui sont dans cette recherche sincère et qui se nourrissent de l'amour de Dieu au banquet de noces, presque tous reçoivent là la possibilité d'avancer, et donc ça se manifeste dans la vie de tous les jours. Mais ici, le manque d'habits de noces, finalement, c'est qu'un signe pour le roi. Et ce n'est pas pour cela que le roi le prend par la peau du cou et jette dehors l'invité. Au contraire, on voit le roi, à cause de cela, s'intéresser finalement à l'homme. Le manque d'habits de noces est plus un signe finalement. Et il lui dit, « Ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Et cet homme eut la bouche fermée. En fait, c'est là le problème, visiblement. L'homme n'a rien à répondre. La foi, ce n'est pas juste une obéissance qui nous transformerait en petits soldats bien obéissants. Non, c'est une réponse personnelle. Dieu nous veut libres et responsables. Responsables, capables de réponse. L'homme aurait pu dire que la couleur de l'habit ne lui plaisait pas. On a le droit de discuter avec Dieu. Ou alors, si c'était le cas, il aurait pu dire ben, « j'ai pas trouvé les manches, je ne me suis pas débrouillé à arriver à enfiler cet habit un peu compliqué ». On n'est pas obligé d'être performant, finalement, devant Dieu, heureusement. Mais si on ne sait même pas pourquoi on a fait ce qu'on a fait, ce qu'on a pensé, ce qu'on pense, alors effectivement, on est comme cet homme, pieds et poings liés dans les ténèbres de l'extérieur. Donc ce n'est pas par la volonté de Dieu qu'il se retrouve ainsi, ligoté et dans les ténèbres. Mais c'est plutôt malgré la volonté de Dieu, malgré tout ce que Dieu a pu faire, qu'il est en mauvaise posture. Donc d'accord pour cette lecture de la circulation de la grâce de Dieu et de la foi dans une démarche sincère, libre et responsable qui se nourrit de la grâce de Dieu et de cette liberté qu'il nous donne justement par son amour large, son pardon. Mais cette lecture n'explique finalement pas tout le texte, tant s'en faut, il reste de sacrés problèmes. D'abord, par définition, la grâce de Dieu est un amour gratuit pour chacun. Or, si l'on prend ainsi littéralement la parabole, le but de Dieu n'est pas tellement l'épanouissement de ses invités, quelques invités qu'il aurait sélectionnés parmi l'humanité tout entière, mais plutôt que sa noce soit réussie, que la salle de banquet soit pleine, que ce qu'il a sacrifié ne soit pas sacrifié en vain. Et puis dans cette lecture insistant sur la foi de l'homme, la puissance de salut est bien limitée à la hauteur de notre capacité à dire oui, ce qui fait quand même une bien petite puissance de salut. Et puis le second et le plus grand problème, en fait, c'est que la conclusion qui est à la fin de la parabole ne cadre pas du tout avec cette lecture. Il y a une multitude d'appelés et peu d'élus. Alors cette conclusion est tout à fait étrange parce que toute la parabole nous parle de l'appel de Dieu adressé à certaines personnes seulement et non pas à une multitude, c'est-à-dire à tout le monde. Et puis, autre chose étrange, c'est que dans la parabole, il y a finalement une foule respectable quand même dans le banquet des noces, dans le royaume, et non simplement peu d'élus. Et puis ce qui est étrange encore, c'est que la parabole, elle laisse penser que la foi serait la condition finalement du salut d'une personne individuelle, alors que dans la conclusion, le critère n'est pas la réponse de l'homme, mais elle est le choix de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, et finalement la question c'est d'être élu finalement, donc un choix sélectif. Et puis pourquoi est-ce que Dieu appellerait tout le monde pour n'en choisir qu'en définitive que quelques-uns, alors que normalement il a choisi ceux qu'il veut appeler. Et donc je vous propose une troisième lecture qui parte de cette conclusion de la parabole. En effet, dans une parabole, c'est toujours dans la conclusion toujours dérangeante en fait, que se trouve le ressort d'une nouvelle compréhension de ce que nous propose le Christ. La parabole, elle est faite pour qu'on la lise comme un petit conte bien édifiant, oui, qui va dans le sens de ce que l'on a toujours entendu avant et avec lequel on était bien d'accord, mais qui devient absurde quand on arrive à la conclusion, nous invitant à changer de logique. Ici, nous sommes invités à comprendre autrement la place de la grâce et celle de la foi dans notre salut et dans le salut du monde. Dieu invite la multitude des hommes et des femmes à entrer aujourd'hui et maintenant dans le royaume. La multitude, c'est tous, c'est l'humanité tout entière. C'est nous qu'il a choisi, qu'il a élu. Alors les différents invités qui sont sélectionnés dans cet ensemble ne sont pas donc telle ou telle personne de l'humanité, donc les gens qui auraient été sélectionnés, tant pis pour les autres, comme pouvait le penser Calvin. Les différents invités ne sont pas telle ou telle personne, mais les invités sont les différentes dimensions de chaque personne. En effet, Dieu appelle notre être tout entier à se rassembler, à s'unifier, à venir pour les noces. Et les réactions violentes de Dieu ne sont certainement pas pour exclure telle personne qui est en dessous de la moyenne, mais au contraire, pour aimer chacun, pour l'aider, pour le soigner, pour purifier par le feu de l'esprit ce qui, en nous, tue le meilleur de nous-mêmes. Ce qui, dans le monde, par nos problèmes, va tuer ce qui est de l'ordre de la vie essentielle en chacun. Et donc Dieu recueille ce qu'il y a de meilleur, il recueille notre espérance, notre recherche pour la nourrir et pour l'inviter à une fête. Il veille sur nous quand nous sommes en train de nous nourrir du festin qu'il nous a préparé. Il démasque nos restes d'inconséquence, d'inconscience, de ténèbres, afin de nous rendre plus libres et plus responsables. Alors toutes ces dimensions, bonnes et mauvaises, de chacun de nous sont invitées au festin. Mais oui, peu sera gardé dans le fouillis de notre être, de nos actes, de nos préoccupations et de notre vie tout entière. L'amour est en fait un tri sélectif, un tri bienveillant, bienfaisant, qui garde le meilleur. Il garde juste le trésor de notre personnalité, de la personnalité profonde de chacun, de notre foi, de notre espérance, de notre amour. Alors c'est ce que dit Paul. Dieu garde la foi, l'espérance et l'amour de chacun. Laissons de côté ce qui est temporaire dans notre être, parce que oui, l'ongle du troisième petit orteil ne méritera pas forcément du royaume de Dieu. Et puis ce qui est souffrant en moi, les blessures anciennes, les travers, et puis ce qui n'est pas très sympa dans mes choix, dans ma façon d'être, eh bien cela sera jeté dehors, purifié par le feu, et la salle sera remplie de joyeux convives finalement. Cette salle de noces parle de notre existence alors, elle parle de l'humanité finalement, comme l'ensemble des convives unis par la joie. Mais une seule interprétation n'épuise pas la parabole de Jésus, bien sûr. Chacun de nous est donc cette humanité complexe, invitée par Jésus, avec des préférences de Dieu dans notre être, c'est vrai. Chacun de nous est appelé à être le serviteur qui part, qui invite, qui rassemble à la fois son propre être, mais aussi les autres humains dans le corps du Christ. Chacun de nous est ce soldat que Dieu envoie, non pour éliminer quiconque, mais au contraire pour travailler à faire reculer, ici et partout, ce qui injurie et ce qui tue le meilleur, la vie, la dignité, la foi, l'espérance et l'amour. Nous sommes invités à nous réjouir des noces du Fils de Dieu avec l'humanité, le Christ avec l'humanité, mais nous sommes aussi cette fiancée que Dieu aime d'amour et qu'il épouse. Et puis nous sommes le Fils du Roi aussi, celui que Dieu marie. En effet, Dieu nous a adoptés par grâce, nous dit sans cesse l'Évangile. Que nous soyons bons ou mauvais, Dieu nous considère comme son Fils bien-aimé et il ne nous déshéritera pas. Et nous sommes même ce roi de la parabole. En effet, le texte ne nous dit pas un roi, il nous dit un homme roi. Car si Dieu effectivement fait évoluer le monde de l'extérieur en poursuivant sa dynamique d'évolution, Dieu est aussi, et ce n'est pas le plus grand des dons, est aussi en chacun de nous, travaillant de l'intérieur notre humanité, créant avec nous et par nous aussi un tout petit peu, mais quand même. Alors nous sommes invités à rassembler tout cela dans une seule personne que nous sommes, merveilleuse, mais si nue, si Dieu n'était pas là. Amen. Et je vous propose de chanter.